France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir.
Quoi donc ? C'est ce que l'on appelle une révolution.
Ah, effectivement, c'est considérable.
Enfin, considérable, tout est relatif.
Oh, Einstein, petite crapule.
Mais alors, il va falloir nous expliquer ce que c'est que ces ondes gravitationnelles.
Einstein les avait prédites, mais il nous a fallu 100 ans pour les voir. Les ondes gravitationnelles, ce sont des oscillations de l'espace-temps, des vagues qui se propagent partout et sont le résultat de la fusion d'objets massifs, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Bien que ces phénomènes soient cataclysmiques, les vibrations de l'espace-temps restent minimes. C'est pourquoi la précision et la sensibilité des instruments ont pendant longtemps fait défaut. Depuis la première détection officielle par LIGO, en 2015, rejoint ensuite par son cousin italien Virgo, les interféromètres captent maintenant à l'appel, ces grondements en provenant de l'espace. Comment est-on parvenu à les entendre ? Pourquoi bouscule-t-elle l'astrophysique ? Comment les ondes gravitationnelles ont-elles changé le monde ? Et pour nous raconter cette histoire vibrante, j'ai le plaisir de recevoir Matteo Barsulia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Diderot, ancien responsable national de Virgo et auteur du livre Les vagues de l'espace-temps, la révolution des ondes gravitationnelles paru aux éditions Dunod. Et à nos côtés également, Laura Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche CNRS au LUX, le laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes à l'Observatoire de Paris. Ce sont donc ces phénomènes extrêmes qui sont capables de déformer ainsi l'espace-temps, c'est une conséquence directe de la relativité générale. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse reposer finalement ensemble le cadre de cette théorie de la gravitation et ce qu'elle implique. Donc elle énonce que la gravitation n'est pas une forme, une force et qu'elle courbe l'espace-temps. Laura Bernard, est-ce que vous avez une analogie peut-être pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, ce qu'est finalement au point de départ, l'espace-temps.
Alors l'espace-temps, c'est donc c'est la théorie de la gravitation qui était proposée par Albert Einstein en 1915 et la principale caractéristique qu'elle dit, c'est que donc la force gravitationnelle n'est en fait pas une force, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps. Donc c'est on peut imaginer qu'on a une trame d'espace-temps et qu'on pose des masses sur cette trame, comme le Soleil qui est une masse et les objets qui orbitent autour de cette masse, donc du Soleil par exemple, elles vont suivre cette courbure de l'espace-temps. Une analogie simple, c'est que si vous prenez un torchon, vous le tirez, vous mettez une orange au milieu, vous lancez un objet, une prune, on va dire, autour, elle va tourner, elle va orbiter autour de cet objet. Et donc c'est ça qui régit la gravitation.
Et ce qu'on comprend, c'est que ça veut dire que voilà, si on pose une planète, une orange, une pêche, qu'importe, ou un trou noir sur notre trame, l'espace-temps est déformé et reste déformé, mais les ondes gravitationnelles, ce sont des déformations transitoires de cet espace-temps, Matteo Barsulia.
Oui, alors il y a plusieurs sources d'ondes gravitationnelles. Vous l'avez dit, il y a des sources que nous avons déjà détectées, c'est des fusions de trous noirs, d'objets compacts. Nous détectons la phase finale de la spiralisation d'un système de deux trous noirs. Et donc, mais c'est quelque chose, les ondes gravitationnelles sont là depuis des millions d'années, mais nous détectons juste la phase finale. Alors, il y a des sources transitoires, par exemple, les ondes gravitationnelles qui sont produites par des effondrements d'étoiles massives qui donnent lieu à des supernovas. Nous ne les avons pas encore détectées. Il y a des ondes gravitationnelles, disons, quasi transitoires, comme les ondes gravitationnelles que nous détectons avec les fusions d'objets compacts. Il y a des ondes gravitationnelles qui sont plus continues, pas encore détectées, comme les étoiles à neutrons qui tournent et qui émettent des ondes gravitationnelles comme un signal continu, comme une note continue.
Et ce que j'aimerais comprendre tout de même, c'est que cet espace-temps, on parle de cette déformation, mais il reste quand même très solide. C'est-à-dire que si on reprend l'image de la nappe de tout à l'heure, en fait, Laura Bernard, si je tape sur le sol là, je ne produis pas d'onde gravitationnelle.
Si un objet qui n'est pas très symétrique, donc comme nous, si on bouge, on va faire des variations de cet espace-temps. En gros, c'est des vibrations de l'espace-temps et c'est ça qui va se propager à l'infini. Le problème, c'est que c'est très petit. Donc, si nous, on se met à tourner l'un autour de l'autre, on ne va pas émettre des ondes gravitationnelles qui seront détectables. Donc, c'est pour ça qu'il faut des objets très compacts, donc à la fois massifs et compacts. Et donc, ces objets-là sont vraiment les objets les plus massifs et compacts de l'univers, donc les trous noirs et les étoiles à neutrons.
Et cette idée finalement d'onde gravitationnelle vient très rapidement à l'esprit d'Einstein. Seulement un an après sa relativité générale, donc en 1916, il publie un papier justement où il évoque la possibilité qu'elles existent. Mais ce que j'ai cru comprendre, Laura Bernard, c'est que c'est avant tout une solution mathématique à ce qu'est l'équation de la relativité générale. Donc c'est presque un objet à ce moment-là, en 1916, totalement théorique.
Donc en fait, il a cherché une solution en linéarisant ces équations, donc une solution simple, avec une certaine source qui dépendrait du temps, donc qui est variable. Il a obtenu des solutions, donc des ondes, type onde, donc une onde gravitationnelle. Il a même montré quelques années plus tard, en 1918, qu'elle pouvait transporter de l'énergie, donc c'est la formule du quadrupole. Donc il y avait une petite erreur facteur 2 qui a été corrigée plus tard dans ce papier, comme souvent. Mais assez vite, il s'est aussi demandé si, en fait, et il y a eu beaucoup de questions dans ces années-là, les années 20, si c'était une solution physique, dans le sens où elle transportait de l'énergie, on pouvait détecter, ou c'était juste un artefact mathématique de la manière dont on décrit ces solutions.
Et un artefact mathématique, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'équation n'est pas bonne, ou on ne rentre pas les bons paramètres?
Non, ça veut surtout dire que on utilise certains systèmes mathématiques pour décrire ce qu'on appelle les systèmes de coordonnées. Et on peut aussi changer ce système. Il y a une certaine liberté dans la théorie de la relativité générale, de la manière dont on résout, on cherche des solutions. Et donc les solutions, si elles doivent être physiques, elles doivent pas dépendre du système qu'on utilise pour les décrire. Et le fait qu'elles dépendent de ces s'il y a des solutions, il y a par exemple Eddington en 1922, il a montré qu'il y avait plusieurs types d'ondes, trois types principales qu'il appelait transverses ou pas transverses. Et il a montré que deux de ces ondes, en fait, leur vitesse de propagation dépendait du système de coordonnées. Donc, en fait, on obtenait une solution type onde, mais c'était juste parce qu'on utilisait un système de coordonnées adéquat. Et donc, il y a le troisième type, qui était, lui, le type transverse, qui, lui, avait des ondes qui se propageaient à la vitesse de la lumière, donc qui ne dépendaient pas du tout du système de coordonnées. Et donc, il pensait que ça, c'était physique. Mais ça n'a pas suffi pour asseoir l'existence des ondes gravitationnelles à ce moment-là.
Un point tout de même important, vous mentionnez Eddington. En 1919, il démontre justement que la lumière est déviée par la courbure de l'espace-temps. Et finalement, donc dès 1919, Matteo Bersolière, on a une forme de preuve en fait de la théorie de la gravitation. Est-ce que ça, c'est une raison supplémentaire pour commencer à imaginer et travailler en fait sur les ondes gravitationnelles, ou c'est un objet encore totalement théorique?
Donc, déjà, avec son papier de 1915, Einstein propose des preuves de la théorie de la relativité générale. Mais, comme Laura le disait, la réalité physique des ondes gravitationnelles est encore débattue. Et les preuves proposées par Einstein sont différentes. Donc les trois preuves, on dit test classique de la relativité générale, sont différentes des ondes gravitationnelles. Ne concernent pas les ondes gravitationnelles.
C'est quoi les tests justement de?
C'est l'orbite de Mercure. C'était un
problème
mystère,
depuis longtemps, oui.
Un problème qui datait du 19e siècle, que l'orbite de Mercure n'était pas complètement comprise. C'était Le Verrier qui avait trouvé qui avait un problème dans l'orbite de Mercure. Donc Einstein calcule cette précession de l'orbite de Mercure très précisément. Et puis, donc, il y a la déviation des rayons lumineux dans un champ gravitationnel.
C'est ce que montre Eddington.
Ce qui montre Eddington. Et un troisième test avec le changement de fréquence dans un champ gravitationnel, de la lumière dans un champ gravitationnel. Donc, ça ne concerne pas les ondes gravitationnelles. La réalité des ondes gravitationnelles continue à être débattue. Donc, il y a un papier d'Einstein en 1937. Donc, il essaie de le publier en 1936 avec son collaborateur Rosen. Et donc, il y a une histoire autour de ce papier. Le papier, il a un problème. Einstein n'est pas convaincu de l'existence des ondes gravitationnelles.
Il vient à douter de ses propres conclusions précédemment.
Il a douté ses propres conclusions. Et finalement, en 1937, il arrive à une solution exacte de ces équations avec un autre choix de coordonnées. Et donc, il montre que, enfin, il est convaincu que les ondes gravitationnelles existent. Mais cela ne clôt pas l'histoire parce que les scientifiques continuent à se poser le problème de la mesurabilité des ondes gravitationnelles. Est-ce qu'elles sont vraiment mesurables?
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Oui, il y a cette idée, en fait, à ce moment de se dire qu'on ne pourra jamais les détecter. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, Laura Bernard, à nous donner pour justement se rendre compte de ce qu'on doit détecter? Parce que c'est extraordinairement ténu. Parce qu'à ce moment-là, en fait, dans les années, au moment de la rédaction, en fait, du premier papier, ou même en 36 ou 37, il n'est pas question, en fait, de pouvoir mesurer, d'avoir les capacités de le faire, c'est ça?
Non, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas bon, la détection n'était pas du tout ce qu'on essayait de faire. Et pour avoir un ordre d'idée, justement un ordre de grandeur, donc une onde gravitationnelle, quand elle va passer, elle va modifier les distances, donc c'est ça qu'on dit. Donc elle va étirer dans une direction et rétrécir dans l'autre. Et cette variation de distance sur une longueur au départ de 1 km, ça va être des variations de distance d'un millième de fois la taille du proton, par exemple. Donc c'est extrêmement faible et donc. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut construire des détecteurs extrêmement précis pour être capable de mesurer cette petite variation de distance.
Il y a quelque chose quand même qui va changer un petit peu les choses, c'est la conférence en fait de Chapel Hill en Caroline du Nord aux États-Unis en 1957. Donc j'imagine que c'est une conférence parmi tant d'autres qui ont lieu peut-être chaque année. Là, la particularité, c'est que le thème principal, c'est le rôle de la gravitation en physique. Matteo Barsulia, est-ce que c'est dans ce cadre en fait qu'on va se poser la question de est-ce qu'on veut les mesurer ou pas? Qu'est-ce qui se passe justement pendant ces conférences-là? Qu'est-ce qui en ressort?
Oui, alors, il y a encore ce problème, comment on mesure les ondes gravitationnelles, est-ce que les ondes gravitationnelles sont mesurables, quel est l'effet physique du passage aux ondes gravitationnelles. Donc, les historiens pensent que cette conférence a eu un rôle important. On a les actes de cette conférence. Et,
il y a des résumés, c'est ça?
Il y a des résumés. Et il y a tous les experts de la gravitation. Et donc on arrive à la conclusion. Et puis il y aura toute une série d'articles scientifiques à la suite de cette conférence. Donc on arrive à la conclusion que les ondes gravitationnelles sont mesurables et peuvent déposer de l'énergie. Et donc, à la suite de cette conférence, les années suivantes, il y a les premières tentatives de détection directe des ondes gravitationnelles. Donc, je dirais qu'avec la fin des années 50, les bases théoriques de l'existence de la mesurabilité des ondes gravitationnelles sont là. Et à partir des années 60, on s'intéresse plus aux sources des ondes gravitationnelles, à la modélisation des formes d'ondes et aux détecteurs.
Et le premier qui va justement proposer une méthode de détection, c'est Joseph Weber. Il est à l'origine d'ailleurs d'un faux espoir. On écoute une archive de 1979 avec le physicien Silvano Bonazzola dans La Science en Marche sur France Culture.
Le premier à s'occuper de ce genre d'expérience a été Joseph Weber, qui en 1960 a commencé la construction de son détecteur et qui en 69 a publié des résultats positif de détection d'ondes gravitationnelles. Cette nouvelle a déclenché d'autres groupes qui ont réalisé d'autres expériences ou même d'autres groupes qui ont répété l'expérience de Weber. Et malheureusement, toutes ces expériences n'ont pas confirmé les premiers résultats de Weber et on a dû conclure que ces résultats étaient erronés. Ce qu'on a pu prouver, c'est que le résultat négatif de ces expériences ne valide pas la réalité générale. Il dit seulement que les instruments étaient trop peu sensibles pour détecter vraiment trop faible.
C'est justement intéressant, Martin Barsulia. Est-ce que vous pouvez nous revenir peut-être sur la méthode qui est développée par Joseph Weber et justement pour qu'on comprenne finalement pourquoi elle est trop peu sensible ou alors pourquoi ce n'était pas la bonne méthode du tout pour pouvoir détecter les ondes gravitationnelles?
Alors, Joseph Weber imagine un détecteur d'ondes gravitationnelles qui a un cylindre d'aluminium. Et donc, quand il y a une onde gravitationnelle qui passe, le cylindre est mis en vibration par l'onde. Et donc, il imagine ce cylindre avec des capteurs autour. Et donc, l'objectif est mesurer la vibration du cylindre avec des capteurs très sensibles. Donc, il construit, il a des bonnes idées. D'ailleurs, c'est le premier qui se lance dans cette aventure, donc c'est un grand mérite. Et il a des bonnes idées. Par exemple, une idée, c'est de construire plusieurs de ces détecteurs, donc très distants. Et donc, quand l'onde passe, passe à travers tous les détecteurs, parce qu'elle traverse la Terre, et donc on la voit partout. Et donc, s'il y a une onde de gravitation qui passe, on doit avoir une coïncidence, détecter une coïncidence dans des détecteurs distants. Et c'est une technique qu'on utilise encore aujourd'hui, avec LIGO, Virgo, Kagra, on fait des coïncidences. Et le problème, c'est que le détecteur est résonant, c'est-à-dire qu'il a un signal seulement à la fréquence de résonance du cylindre, autour du kilohertz, il n'est pas un détecteur large bande comme les détecteurs que nous avons aujourd'hui. Donc, elle peut écouter une note, c'est comme avoir un microphone qui détecte seulement une note musicale, et on ne peut pas écouter vraiment la musique avec ces détecteurs. Donc, l'autre difficulté, c'est que la sensibilité est limitée, parce que comme Laura le disait, l'espace-temps s'étire comme un élastique, et donc si nous avons des masses, un détecteur qui est grand, le signal est plus important. Là, alors, les barres de Weber, les barres résonantes, ont des dimensions de quelques mètres maximum. On ne peut pas construire des détecteurs plus longs pour des questions pratiques, c'est difficile de les isoler, etc. Et donc, malgré ça, c'est la première fois qu'on essaye de détecter les ondes gravitationnelles, et les essais avec les barres résonantes continuent. Mais on se rend compte qu'il y a une méthode qui est meilleure, qui est plus puissante et qui est basée sur la lumière. Et donc on passe dans les années entre les années 60 et les années 70 aux interféromètres.
Et justement, ce qu'on entendait finalement dans l'archive, Laura Bernard, c'est que ce faux résultat et ce mauvais résultat, entre guillemets, n'entache pas du tout la volonté de la communauté scientifique, en fait, à chercher à faire justement un bon détecteur.
Non, pas du tout. Justement, donc il y a beaucoup de groupes qui ont essayé de répliquer le résultat qu'il a obtenu pour vérifier de la validité. Et ensuite, on a juste changé de méthode de détection pour justement aller vers les détecteurs interférométriques qui détectent plus facilement, on va dire, les ondes gravitationnelles.
Et ça, ce sont les travaux en fait de Rainer Weiss, c'est ça, dans les années 70, si on se situe chronologiquement à nouveau.
Voilà, je pense que c'est. Alors, je sais pas exactement qui a lancé l'idée. Je pense qu'il y a Rainer Weiss. Il y a aussi Kip Thorne qui a beaucoup travaillé pour lancer cette idée de détecteur.
Ils partageront le prix Nobel.
Voilà. C'est aussi un théoricien. Lui, il a participé aussi à développer la théorie sur les ondes gravitationnelles, mais il a aussi lancé et motivé la communauté à construire ces détecteurs.
Et justement, ces interféromètres, en fait, ça provient en fait d'une vieille expérience, entre guillemets, des années du 19e siècle, l'interféromètre de Michelson et Morley.
Oui, c'est ça. Alors, Michelson et Morley, ils ont construit des interféromètres, donc c'est un système qu'on étudie à l'école maintenant en physique. Et en gros, on envoie un signal lumineux dans deux directions opposées. C'est pour tester le caractère ondulatoire. Et on les envoie dans deux directions perpendiculaires. Ils reviennent, on les recombine. Et comme c'est des ondes, on s'arrange pour qu'elles soient soit en opposition de phase, soit pas en opposition de phase. Et donc, quand on les recombine à la fin, on les projette sur un écran, ça va faire des interférences, un certain image particulière qu'on peut voir et qui teste notre onde. Et donc notamment Michelson et Morley, ils avaient construit ces détecteurs pour tester la théorie comme quoi on vivrait notre
dans
espace, on n'est pas dans le vide mais plutôt dans un système d'éther. Donc ils n'ont pas trouvé cet éther qui a priori n'existe pas, mais ça, ils ont mis un point ce détecteur qui dont le principe est encore utilisé aujourd'hui.
Et c'est donc cette transformation en fait de l'interféromètre de Michelson et Morley, mais dans une distance ou avec des dimensions qui sont beaucoup plus grandes, sans parler directement de la construction en fait des interféromètres qu'on connaît. Est-ce que du coup, dès ce moment-là, on se projette sur le fait de construire des énormes interféromètres?
Oui, c'est à partir des années 70. Alors il y a un travail qui est considéré fondamental dans cette aventure, c'est un rapport du MIT d'un jeune professeur de physique qui s'appelle Ray Weiss, donc un des trois qui aura le prix Nobel en 2017. Et donc Ray Weiss fait une analyse des conditions, fait un schéma d'un détecteur qui est capable de détecter des ondes gravitationnelles d'origine astrophysique. Et donc il fait une analyse des bruits, qui sont les bruits qui nous limitent aujourd'hui. Et donc un détecteur qui doit avoir des bras très long, kilométrique, avec certaines conséquences, des lasers stabilisés, des isolations sismiques, des miroirs qui ont des caractéristiques assez particulières. Et donc oui, c'est un peu le développement et l'adaptation pour la détection des ondes gravitationnelles de cette idée très simple de Michelson. Alors Michelson, avec cette idée, aura le prix Nobel de physique. Donc c'est un prix Nobel pour le Michelson, l'interférométrie de Michelson, et un siècle après un prix Nobel pour les ondes gravitationnelles avec
basé là-dessus.
le même instrument. Et donc, avec les années 70, donc l'aventure des grands détecteurs d'ondes gravitationnelles commence. Donc, il y a des prototypes, il y a des idées, il y a 40 ans de développement technique pour arriver à la première détection.
Et ce qu'on comprend justement, c'est que ces ondes gravitationnelles qu'on cherche à détecter, elles proviennent d'événements cataclysmiques justement entre des objets très massifs. Mais est-ce qu'on a une idée de la nature de ces objets en 1970 ? Qu'est-ce qu'on sait finalement sur ces objets qui sont très massifs et qui peuvent être du coup à l'origine en fait de ce qu'on cherche indirectement à détecter, Laura Bernard ?
Alors
c'est le début en fait finalement.
C'est le début parce que ces objets, les trous noirs par exemple, ils ont été détectés pour... Les solutions de trous noirs ont été émises, donc le premier trou noir c'est Schwarzschild en 1915, et après...
Encore une solution mathématique.
C'est une solution mathématique, la deuxième solution mathématique c'est la solution de Kerr, qui était en 1963, donc directement dans ces années-là. Donc il fallait les observer, ils ont été observés notamment des trous noirs, les quasars, qui ont été observés dans ces années-là, donc des sources très brillantes au centre des galaxies par exemple, qui sont vraiment à très haute énergie. Et donc c'est ces travaux-là qui ont permis de détecter les trous noirs, mais à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de solutions. L'autre source, c'est les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, je ne sais plus exactement est-ce qu'on les a vues pour la première fois. Je sais quand est-ce qu'on a vu un pulsar pour la première fois.
Bah justement, je pense qu'on peut arriver finalement au pulsar, parce que c'est justement ça qui va constituer une forme de démonstration indirecte, pas une forme, d'ailleurs la démonstration indirecte des ondes gravitationnelles. C'est par Hulse et Taylor. Si je résume, les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons tournant très rapidement sur elles-mêmes et qui sont elles-mêmes les restes d'une étoile effondrée. Est-ce que c'est ça, Laura Bernard ?
Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir qu'une étoile assez massive, donc entre 3 fois la masse du Soleil et 20 fois la masse du Soleil, à la fin de sa vie, elle va s'effondrer, parce qu'il n'y aura plus de force nucléaire pour contrebalancer la force gravitationnelle. Donc elle va s'effondrer sur elle-même, et après elle va exploser en supernova, et ce qui va rester, c'est un objet, dans le cas d'une étoile massive de moins de 20 masses solaires, 20 fois la masse solaire, ce qui va rester, c'est une étoile à neutrons. Au-delà de 20 masses solaires, généralement, ce qui reste, ça sera un trou noir.
Et en quoi la première découverte justement d'un pulsar, ça va donner en fait l'idée d'une détection indirecte finalement des ondes gravitationnelles ?
Donc les pulsars, ils ont été découverts en 1967 par Jocelyn Bell, qui était étudiante en thèse à Cambridge, et elle a découvert un signal électromagnétique ultra régulier en ondes radio. Donc c'est en gros un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui est en rotation sur elle-même et qui émet un rayonnement électromagnétique dans une direction. Et nous, ce qu'on capte sur Terre, c'est le passage de ce rayonnement électromagnétique.
Donc ça clignote
de manière... toutes les secondes, de manière ultra précise, sans variation. Donc ça, pour l'anecdote, c'était la découverte par Jocelyn Bell des pulsars, qui a donné lieu à un prix Nobel une dizaine d'années plus tard, en 1974, à son directeur de thèse.
Sans elle, oui.
Et donc ces pulsars, après, ils peuvent être dans des systèmes binaires, donc avec une autre étoile à neutrons, par exemple, qui orbite l'un autour de l'autre, et ces systèmes binaires, donc c'est deux étoiles à neutrons, donc deux objets très compacts qui orbitent, donc ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Et nous, sur Terre, on peut mesurer le signal du coup de ce jet électromagnétique, et à partir de ça, on peut calculer la période orbitale du système, donc à la vitesse à laquelle les deux objets tournent l'un autour de l'autre. Et c'est ça qu'ont regardé Hulse et Taylor, Ils ont observé que pour un certain pulsar, qu'on appelle maintenant le pulsar de Hölzel-Taylor, cette période orbitale, elle n'était pas régulière, mais en fait, elle diminuait. Donc, ce qui montrait qu'en fait, le système émettait des ondes gravitationnelles et donc les deux objets se rapprochaient petit à petit.
Et finalement, Matteo Bersuglia, ça veut dire que cette démonstration indirecte, elle est importante parce que par le calcul et par d'autres types d'ondes, on arrive à voir ce qu'on veut en fait finalement détecter. Est-ce que dès cette période-là, on comprend qu'on a indirectement détecté des ondes gravitationnelles ou encore c'est juste le début ?
Alors, avec Hulse et Taylor et Weisberg, scientifique qui continue à travailler avec Taylor après, donc qui continue les observations de la décroissance de la période orbitale de ce pulsar binaire. Donc il y a une démonstration que les ondes gravitationnelles existent. C'est d'ailleurs ce que nous avons écrit dans l'article de la première détection en 2016, donc publié en 2016, la première détection 14 septembre 2015. Nous avons écrit dans l'introduction qu'avec Hulse et Taylor, les ondes de gravitation, on sait que les ondes de gravitation elles existent. Donc c'est l'accord entre la théorie et les données, il est assez incroyable. Si on regarde la courbe sur 30 ans, on voit une ligne qui représente la décroissance de la période orbitale. Donc la spiralisation de ce système et la décroissance de la période prévue par la relativité générale. Et l'accord avec les données, il est impressionnant. Donc c'est vraiment une démonstration de la perte d'énergie par ce rayonnement gravitationnel. Bon, la détection en 2015 et après, c'est une détection directe ici sur Terre avec la détection de l'effet physique, de l'étirement de l'espace-temps.
Comment a-t-on construit des détecteurs suffisamment sensibles pour capter ces ondes gravitationnelles ? Comment les premières détections directes ont-elles transformé l'astronomie ? C'est la suite de notre programme juste après ça.
Goodbye.
Gravity Shop d'Albert Newton sur France Culture. Vous écoutez les découvertes scientifiques qui ont changé le monde avec aujourd'hui la découverte des ondes gravitationnelles en compagnie de Matteo Barsulia, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot, ancien responsable national de Virgo et auteur du livre Les vagues de l'espace-temps paru aux éditions Dunod, et avec Laura Bernard, chargée de recherche CNRS au LUX, le laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes à l'Observatoire de Paris. Il y a donc deux installations qui vont commencer à être construites en 94, LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie. Là, on voit déjà qu'on a fait un petit saut dans le temps entre les prototypes et les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant justement ces 25 ans, Matteo Barsulia, il a fallu monter en fait finalement ces projets séparément. Je ne sais pas s'il y a des particularités de justement de financement de chacun des deux projets qui pour l'instant sont complètement séparés. On est d'accord.
Oui, alors donc on commence à dans les années 70 avec des prototypes. Le premier prototype c'est Forward et donc c'est un prototype de 2 mètres. Donc aujourd'hui, nous avons des instruments qui font 4 km aux États-Unis et 3 km en Italie. Donc c'est des instruments complètement différents et il y a désordre des grandeurs, donc 10 milliards de sensibilité qui ont été gagnés, un facteur 10 milliards en sensibilité qui a été gagné entre les années 70 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a fallu des premiers prototypes et du fameux des premiers articles, entre autres celui de Reiva en 1972. Et il a fallu développer les techniques nécessaires pour arriver aujourd'hui à aux détections de LIGO Virgo. Et donc l'optique, les lasers, les suspensions sismiques, le vide, les miroirs, donc mettre tout ça ensemble. Donc il a fallu développer des idées originales, par exemple sur comment avoir des bras qui ont une longueur effective de 1000 km, mais qui sont 3 km. Donc faire des allers-retours dans les bras, ce qu'on appelle aujourd'hui les cavités ferro-pérot, comment les contrôler. Donc il y a eu un effort de modélisation, un effort de prototypage et un effort de validation de chaque composante du détecteur. Et évidemment, un effort de convaincre les agences de financement à financer ces grands projets, qui sont des projets à des centaines de millions d'euros.
Et c'est quand même un enjeu fondamental, parce que est-ce qu'à ce moment-là, et je trouve que dans cette émission, finalement, il y a pas mal de parallèles avec la question du boson de Higgs. C'est-à-dire que ça se ressemble en termes de collaboration internationale, en termes de financement, en termes de finalement chercher quelque chose qu'on ne peut peut-être jamais trouver. Est-ce que à ce moment-là, en 94, on était déjà sûr, par la méthode indirecte, qu'on détecterait un moment ou un autre les ondes gravitationnelles? C'est aussi anachronique de poser cette question, mais...
Alors, disons que il y avait cette découverte, donc la pulsar de Hülsäter, donc 1974, donc Hülsäter auront un prix Nobel en 1993, si ma mémoire est bonne, et donc on était convaincus que nous étions convaincus que les ondes gravitationnelles existaient, enfin ils étaient convaincus. Moi, je commençais ma thèse plus ou moins quand Virgo a été financé. Je dirais que c'était quand même un effort assez visionnaire, hein, de parce que comme on le rappelait, il faut mesurer un millième du noyau, une variation d'un millième du noyau de l'atome sur quelques kilomètres. Donc je pense que il fallait convaincre les agences de financement, donc aux États-Unis et en Europe, donc avec ce détecteur LIGO américain et puis ce détecteur à l'origine franco-italien Virgo, que c'était possible de mesurer un milliardième de milliardième de mètre, une variation de milliardième de milliardième de mètre. Donc, je dirais, la première difficulté, c'était convaincre que c'était possible de faire une mesure si petite. Alors, en physique de particules, on peut faire un parallèle, évidemment, mais il y avait une tradition qui était là depuis un peu plus longtemps. Là, on se lançait dans quelque chose de complètement différent. La deuxième chose, c'était le taux des événements. Donc, combien d'ondes gravitationnelles on peut détecter.
Et ça, on ne savait pas.
On avait une idée. Alors, on avait une idée sur les étoiles à neutrons. On avait pas d'idées, ou c'était des idées, enfin c'est des fourchettes très larges sur le taux de détection de fusion de trous noirs. Donc il y avait ces deux aspects, est-ce qu'on y arrive expérimentalement, et est-ce qu'il y a assez de sources dans un temps raisonnable, voilà.
Et si on en revient un petit peu à la technique de détection, donc c'est un laser qui est envoyé sur un miroir qui se sépare en deux faisceaux, un pour chaque bras. Ce que vous disiez, Mathéo, tout à l'heure, c'est que ces bras, donc du coup, le laser fait des allers-retours pour gagner en distance, c'est-à-dire au lieu d'avoir justement juste 3 km, on peut multiplier finalement la sensibilité. Et s'il y a un déphasage, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Laura Bernard, c'est là où on peut voir potentiellement une onde gravitationnelle. Mais ce déphasage-là, il pourrait aussi être le fait de quelque chose naturellement sur Terre qui provoque en fait finalement cette interférence. Il y a un enjeu crucial à développer ces techniques en ayant une réduction du bruit, ce qu'on appelle le bruit.
Oui, exactement. Donc en fait, ces détecteurs donc ils sont réglés pour être en déphasage, donc il n'y a aucun signal si rien ne se passe, et s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, on voit apparaître un signal. Le problème, c'est qu'il y a tous ces bruits qui perturbent le système, donc la vibration juste de la Terre, les bruits plus quantiques du laser, etc. Et donc il faut réussir à comprendre tous les sources extérieures qui peuvent perturber notre système, donc tous ces bruits, tous les modéliser pour justement pouvoir enlever déjà de notre signal en fait, pour avoir quelque chose qui est un peu plus propre. C'est aussi pour ça qu'on construit plusieurs détecteurs, parce qu'on s'attend aussi à, s'il y a une perturbation dans un endroit, moins, s'il y a un signal d'onde gravitationnelle, il va apparaître dans tous les détecteurs. Tandis que s'il y a une perturbation due à un événement proche. Local proche, il sera que dans un seul détecteur.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que LIGO a deux détecteurs qui sont à deux endroits différents aux États-Unis. Oui. C'est pas le cas de Virgo, c'est ça?
Non. Donc LIGO, il y a deux détecteurs, un en Louisiane, à Livingston, et l'autre à Hanford, dans l'État de Washington. Tandis que Virgo, il y a juste un détecteur à Pise, mais il y a une collaboration et toutes les données sont analysées en conjointement entre les trois détecteurs et maintenant avec Kagra aussi au Japon.
On va le mentionner. Ce que j'aimerais comprendre également, Matteo Barsolia, c'est que LIGO et Virgo sont mis en marche autour des années 2000 pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 ans, en fait? Est-ce que, je sais pas qu'il se passe rien, est-ce qu'il faut finalement régler un peu les machines? Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on s'attend à ce que tout marche directement? Est-ce qu'on est un peu déçu, en fait, au moment de la mise en marche, en fait, de chacun des deux détecteurs?
Donc il y a la phase de assemblage des détecteurs, donc qui prend beaucoup de temps, et vers les années 2000 nous avons terminé, et donc là il commence une phase qui est la mise au point des détecteurs. Donc on allume ces détecteurs pour la première fois et on les met en marche, et ça prend beaucoup de temps de comprendre les bruits. Alors, certains bruits sont modélisés, mais il y a des réglages fins et on apprend, hein, on apprend, parce que c'est évidemment, on a des prototypes, on a des modélisations, mais sur les détecteurs de kilométriques, c'est la première fois. Et puis on sait à un moment, donc les techniques fondamentales, les lasers, les suspensions, les miroirs, tout sont validés. On arrive à mesurer une variation d'un milliardième de mètre, donc un millième de noyau de l'atome, mais on sait que c'est pas assez pour détecter un nombre d'ondes gravitationnelles raisonnables dans un temps raisonnable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vers 2011, on démonte tout et on remplace les détecteurs avec des détecteurs ce qu'on appelle avancés, donc LIGO avancé, Virgo avancé, et ces détecteurs ont des lasers plus puissants, des suspensions améliorées, et donc ils sont on sait que ces détecteurs ont vraiment une chance de détecter des ondes gravitationnelles. Ce qui se passe, parce que LIGO il est en marche depuis deux jours, il y a le premier signal, donc le 14 septembre 2015, et puis Virgo avait commencé après, donc il y a un retard un peu historique dans la construction de Virgo, et Virgo arrivera en 2017.
Et pour le grand public, cette annonce a lieu donc du coup le 11 février 2016.
Mesdames et messieurs, nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Gravitational waves. We did it. Nous avons réussi. Je suis très heureux de pouvoir vous le dire. Ces ondes gravitationnelles ont été produites par la collision de deux trous noirs qui se sont rapprochés et ont fusionné pour former un seul trou noir il y a environ 1,3 milliard d'années. Elles ont été détectées par LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles à interféromètre laser. LIGO est l'appareil de mesure le plus précis jamais construit.
Une traduction faite par Loïc Dutton. On entend du coup cette archive. David Reitze, le directeur du consortium LIGO, qui annonce qu'une onde gravitationnelle a été détectée le 14 septembre 2015 à 9h50 minutes et 45 secondes. J'aimerais savoir où vous étiez en fait l'un et l'autre quand cette annonce a été faite et si vous étiez au courant avant que ça arrive. Mathéo Bartolia.
Oui, alors chaque fois j'entends cette annonce, j'ai des frissons et je l'ai entendu énormément de fois. Et moi, j'étais dans la salle. C'était à Washington, au siège de la presse américaine. Donc c'est un bâtiment à côté, pas loin de la Maison Blanche. Oui, j'étais envoyé par le CNRS pour participer à cette conférence avec la délégation du CNRS.
Et vous saviez du coup ce qui allait être annoncé exactement ou pas tout à fait?
Oui, parce que voilà, depuis 2007, LIGO et Virgo travaillent ensemble, donc travaillent comme un grand détecteur unique. Donc, on a signé cet accord en 2007 en disant, voilà, il faut avoir plus de confiance à la détection. Plus de détecteurs, c'est plus de confiance.
C'est presque tardif par rapport au début du projet, 94-2007.
Je pense qu'au contraire, c'était un choix très en amont qui a structuré cette communauté. On travaille ensemble depuis une période dans laquelle il n'y avait pas encore de détection. Donc, et on a commencé à travailler ensemble, analyser les données ensemble, publier ensemble. Et donc, même si Virgo ne fonctionnait pas encore en 2015, nous étions déjà associés à cette découverte. Nous avons analysé les données, signé l'article. Donc oui, nous étions à connaissance depuis le passage de l'onde, donc le 14 septembre 2015. Et pendant les 5 mois qui ont suivi, voilà, il fallait maintenir le secret jusqu'à cette annonce-là.
Je voudrais un autre regard justement sur cet événement, Laura Bernard. Où étiez-vous en fait au moment de l'annonce, du moins officielle? Est-ce que vous étiez au courant? Vous étiez en thèse, non, il me semble?
Oui, donc j'étais dans ma dernière année de thèse. Donc je travaillais sur la modélisation des ondes gravitationnelles, donc c'était assez excitant. Donc je faisais pas partie de la collaboration, donc j'étais pas au courant. J'avais entendu peut-être dans les derniers jours des rumeurs sur l'annonce. L'annonce, donc je travaillais à l'Institut d'Astrophysique de Paris et l'annonce a été projetée dans le grand amphithéâtre de l'Institut d'Astrophysique où tout le monde s'était réuni, etc.
Donc c'était peut-être une sacrée émotion aussi de travailler sur ce sujet-là directement et d'avoir...
Exactement, c'était assez... pour moi, c'était vraiment bon moment, pile au moment où je commençais à rédiger ma thèse. Il y a l'annonce qu'on a découvert, et cette découverte, elle ne pouvait pas non plus être faite sans les travaux théoriques qui ont été faits. Donc ça donnait un peu plus de sens à tout, mais ce que j'avais fait dans les 3 années d'avant.
Et est-ce qu'on comprend justement tout de suite qu'il s'agit de la fusion de deux trous noirs? Est-ce qu'on cherche directement à comprendre du coup l'origine de ce phénomène-là, Laura Bernard?
Oui, alors en fait, quand on détecte l'onde gravitationnelle, c'est fait pour assurer le fait qu'on a détecté un signal. Donc déjà, on compare à des modèles théoriques qui ont été construits. On a une banque de données, donc un catalogue de formes d'ondes, donc de modèles pour ces ondes gravitationnelles, qui dépendent de tous les paramètres des sources possibles, donc que ce soit trou noir ou étoile à neutrons, avec notamment leur masse, la rotation sur eux-mêmes, leur vitesse de rotation sur eux-mêmes, la distance, etc. Donc il faut construire ces catalogues, et donc dans un premier temps on compare rapidement, on fait une analyse statistique rapide pour être sûr qu'on a un signal, puis après on doit générer des formes d'ondes vraiment pour tous les paramètres possibles, et après on compare notre signal de manière un peu plus poussée, avec une analyse statistique plus poussée, pour déterminer les paramètres du système. Et donc ça nous donne la masse des objets, leur rotation, etc. Et avec ça, on peut déterminer si c'est vraiment deux trous noirs, des étoiles à neutrons, leur masse, etc.
Et c'est ça qu'il a fallu vérifier, en fait, finalement, pendant ces 5 mois, si on doit comprendre pourquoi il y a eu ce délai, entre guillemets, entre la détection et les, à mon avis, intenses vérifications que vous avez dû faire à ce moment-là, Mathéo Bartolia.
Oui, il y avait une extrême prudence. Il y a eu dans le passé des découvertes qui, après, ont été rétractées. La première, c'était... La prudence commence, je dirais, en 1969 avec Joe Weber. Et Donc la communauté était extrêmement prudente. Donc nous avons vérifié que ce n'était pas un artefact instrumental, ce n'était pas un tremblement de terre, que ce n'était pas l'œuvre d'un hacker qui aurait de façon malveillante inséré les données, le signal dans nos données. Nous avons vérifié que la statistique la confiance statistique était bonne, donc le signal ne pouvait pas se produire par hasard sur les détecteurs, deux détecteurs LIGO, qui sont distants 3000 km. Donc quand nous avons vérifié tout ça, il fallait écrire l'article. Ça a pris un peu de temps aussi.
Et vous étiez nombreux aussi. On n'a pas parlé du nombre de collaborateurs
Alors,
cet article.
Alors, on était 1000, environ 1000 à signer l'article. Donc, ça prend un peu de temps parce que quand tu as... Évidemment, il y avait un comité éditorial formé par des collègues de LIGO et Virgo. Mais après, tout le monde pouvait envoyer des commentaires. Donc, c'est une machine un peu compliquée.
France Culture. Ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Il y a une deuxième détection de trous noirs par LIGO qui se fait assez rapidement. Il y a la première détection conjointe entre LIGO et Virgo le 14 août 2017, encore un couple de trous noirs. Et puis le 17 août 2017, trois jours après la première détection conjointe, c'est un nouveau phénomène cataclysmique qui est observé, une fusion d'étoiles à neutrons. Mais ce qu'il faut comprendre ici, Laura Bernard, c'est qu'il n'y a pas uniquement des ondes gravitationnelles qui sont détectées.
Non, ce qui est particulier avec ce signal, c'est que donc c'est la première fois qu'on détecte la fusion d'étoiles à neutrons par les ondes gravitationnelles, mais c'est aussi en même temps on arrive à détecter le signal électromagnétique qui est émis par ce système, parce que donc les étoiles à neutrons, elles sont une physique compliquée que les trous noirs, et donc en même temps il y a ce qu'on appelle un sursaut gamma qui est émis, donc un jet en rayon gamma.
Qui détectait avec quel autre instrument?
Parce que c'est qui détectait avec des télescopes plus classiques, on va dire, et donc qui sont notamment avec le télescope Fermi. Donc on a pu détecter ça parce que cette source était particulière, on a réussi à la localiser assez précisément et pouvoir dire au télescope sur Terre de pointer dans cette direction-là. Et donc après on a pu déterminer précisément la position de cette source de fusion d'étoiles à neutrons et on a pu la suivre avec un signal électromagnétique pendant des semaines et même des mois après.
Et c'est ce qu'on appelle une contrepartie en fait finalement magnétique. Ça veut dire que on peut voir autre chose en fait finalement des déformations de l'espace-temps. On peut le voir avec d'autres phénomènes, ondes radio ou lumière. Et en fait, cette détection, ça marque le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessager.
Exactement. Donc ça a montré que c'était possible de détecter les deux en même temps. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses à la fois en astrophysique, mais en physique théorique aussi. On a pu prouver par là que, par exemple, les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière, puisqu'on a reçu les deux signaux quasiment en même temps. Ça nous a montré que ces sursauts gamma, des signaux qui durent quelques secondes, moins de 2 secondes, ils sont émis justement, on ne savait pas trop le mécanisme qui les formait, on les détectait mais on ne savait pas le mécanisme, donc on sait que ça vient de la fusion de ces deux étoiles à neutrons. Donc c'est plein de choses comme ça, et donc c'est pour ça que maintenant tout le monde, beaucoup de gens essaient de refaire ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, donc à la fois en détection gravitationnelle, pardon. Et en signaux plus classiques électromagnétiques.
Et ça, c'est une des premières grandes révolutions, en fait, le fait de faire cette astronomie multimessager, c'est-à-dire, dès qu'il y a une alerte d'onde gravitationnelle, on braque, en fait, les autres instruments dont on dispose pour voir de quoi il s'agit et avoir plus d'informations, en fait, finalement, sur et les ondes gravitationnelles et les objets qui sont à l'origine de ces ondes, Matteo Bersolien.
Oui, alors, la révolution, c'est de détecter des phénomènes astrophysiques d'une façon différente, donc avec les vibrations de l'espace-temps, avec les ondes gravitationnelles. Et puis, il y a une deuxième révolution qui est détecter les deux ensemble. Donc, à partir du 17 août 2017... Et donc, cela permet de regarder la même source de façon complètement différente. Déjà, de la localiser, donc avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui regardent tout le ciel tout le temps, contrairement en télescope qu'il faut pointer.
Dirigés,
voilà, il faut pointer et voilà, il faut que ça soit nuit. Donc LIGO, Virgo, Cagra ensemble.
Cagra, il faut mentionner que c'est le troisième en fait détecteur maintenant de la collaboration qui est au Japon.
Qui est au Japon, et donc cette collaboration qui a commencé en 2007 avec LIGO et Virgo continue avec Cagra, donc LIGO, Virgo, Cagra. Donc quatre détecteurs et donc on peut identifier la position de la source dans le ciel, donc ça c'est très important et là il y a des télescopes qui peuvent aller regarder et identifier cette contrepartie électromagnétique, donc en combinant les données, donc comme Laura le disait, par exemple on a pu mesurer la vitesse des ondes gravitationnelles en comparant les temps d'arrivée de la lumière des ondes gravitationnelles. Donc là, c'était moins de 2 secondes sur un voyage de 130 millions d'années, ce qui nous prouve que les ondes gravitationnelles et la lumière voyagent à la même vitesse. Mais il y a d'autres découvertes faites lors de cette détection du 17 août.
Et sur justement les sources en fait de ces ondes gravitationnelles, on a parlé de la fusion de trous noirs, fusion d'étoiles à neutrons. Il y a aussi eu des mix étoiles à neutrons trous noirs. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore détecté en fait à l'heure actuelle, Laura Bernard, des événements un peu cataclysmiques et qu'on attend peut-être à détecter?
On n'a pas détecté l'explosion d'une supernova qui émet aussi des ondes gravitationnelles, mais il y a plus d'incertitudes déjà sur la modélisation, donc sur le signal qu'on attend, donc c'est plus difficile à détecter. Pareil, les ondes gravitationnelles émises par des étoiles à neutrons seules, isolées, en rotation sur elles-mêmes, parce qu'elle a des déformations à sa surface, donc ça émettrait des ondes gravitationnelles, et ça, on n'a toujours pas détecté non plus. Et après, il y a aussi des modèles beaucoup plus exotiques qu'on n'a pas détecté, bien sûr. Il y a également des ondes d'origine plus cosmologique, donc qui serait émise par exemple dans l'univers primordial, et ça on n'a pas détecté.
On peut expliquer justement ce que c'est, c'est-à-dire que avant 380 000 ans après le Big Bang, aucune lumière en fait ne peut sortir justement de cette période-là. Donc même si on regardait en fait dans l'univers très très profond, on ne verrait rien parce que la lumière ne s'échappe pas. En revanche, il pourrait y avoir à ces moments-là des ondes gravitationnelles primordiales, donc, mais elles sont de nature différente de celles dont on parle ici.
Dans tous les cas, c'est des ondes gravitationnelles, donc c'est le même objet. Après, c'est leur source qui est différente, et ça peut être des fluctuations, oui, de type dans l'univers primordial. Ça peut être aussi des fusions de trous noirs primordiaux, donc des trous noirs qui ont été formés vraiment aux tout premiers instants de l'univers, qui pourraient fusionner et qu'on pourrait donc très peu massifs et qui pourraient fusionner et qu'on pourrait détecter sous les ondes gravitationnelles maintenant. Mais ça, on n'a toujours pas détecté.
Et en termes de chiffres, Matteo Marsuglia, je disais dans l'introduction qu'on en détectait maintenant à l'appel. Je ne sais pas si je suis allée un petit peu trop loin dans cette question-là, mais là, on a parlé d'abord de un en 2015, un deuxième en 2015, un deuxième en 2017. Maintenant, les alertes, en tout cas, pour les ondes gravitationnelles, il y en a plein.
Oui, oui, deux, trois par semaine. Et à chaque fois que nous augmentons la sensibilité des détecteurs, on regarde plus loin dans l'univers, et donc un volume plus important. Et donc aujourd'hui, oui, c'est voilà, détection d'ondes gravitationnelles, une centaine de sources, et puis nous avons détecté environ 200 candidats, ce qu'on appelle des candidats. C'est des sources qu'on détecte, comme Laura l'évoquait, de façon un peu rapide, et puis on les analyse pour vérifier que c'est vraiment des sources d'ondes gravitationnelles. Donc aujourd'hui, en ce moment, les détections continuent jusqu'à la fin de l'année. Et puis, une autre phase d'amélioration des détecteurs commence. Donc, c'est toujours à alterner les améliorations et les observations.
Quitte à éteindre, du coup, les instruments pour pouvoir en détecter d'autres, en fait. Il y a aussi cet enjeu, j'imagine.
Oui, exactement. Donc, l'idée, c'est d'accumuler des données, les analyser, comprendre un peu ce que les données cachent et ce qu'on peut faire avec ces données. Et puis améliorer les détecteurs. Donc c'est quelque chose que voilà, qu'on continuera à faire encore, je dirais une dizaine d'années, voire plus, et avec les infrastructures, les détecteurs existants, donc LIGO, Virgo, Cagra.
Et d'un point de vue purement théorique, Laura Bernard, est-ce que ces ondes permettent encore de tester en fait la théorie? Je sais que vous travaillez aussi sur les alternatives à la relativité générale. Comment est-ce que ça vous sert en fait maintenant comme objet encore théorique?
Mais justement, le fait de détecter ces ondes gravitationnelles et d'en détecter beaucoup de signaux, on peut faire ensuite tester des déviations, vérifier que, en gros, la relativité générale qui prédit, c'est qui nous donne les modèles de signaux, correspond bien à ce qu'on observe, ou voir s'il n'y a pas d'autres alternatives qu'on aurait pu construire de manière théorique qui expliqueraient mieux ce qu'on observe. Donc on peut faire tout un tas de tests, et le fait d'avoir de plus en plus de signaux permet d'améliorer la précision de ces tests, et donc de tester la relativité générale de manière encore plus précise que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Et l'autre enjeu, ce sont aussi d'autres instruments qui ne sont plus terrestres, mais dans l'espace. Il y en a deux en route, l'ISA d'un côté et l'Einstein Télescope de l'autre. Et justement, l'objectif, c'est de se passer des bruits environnants qui nous restreignent finalement, et de gagner un petit peu en sensibilité, Laura Bernard?
Oui, alors pour être précise, l'Einstein Télescope, ça sera il sera sur Terre, mais il améliorera les LIGO Virgo. Il sera en forme triangulaire, cryogénique, sous Terre. Donc ce sera le même type de source qu'actuellement, mais après pour l'interféromètre LISA, ce sera un interféromètre dans l'espace. Donc ça peut nous, on n'a plus par exemple le bruit terrestre, la vibration de la Terre. On peut construire, ce sera des bras, cette fois-ci la distance entre des satellites qui seront en orbite, en suivant une orbite derrière la Terre. Mais les satellites entre eux auront des bras de millions de kilomètres, 2,5 millions de kilomètres, donc beaucoup plus longs. Et donc ça permettra de découvrir des objets, des sources différentes, et notamment des trous noirs supermassifs, la fusion de deux trous noirs supermassifs, ou la fusion d'un petit trou noir, on va dire, avec un trou noir supermassif au centre. Donc c'est des nouvelles sources, donc c'est pour ça que c'est très excitant.
Matteo Bersuglia, un dernier mot, justement, on arrive à la fin de l'émission, sur ce que vous attendez aussi de la découverte, en fait, et de la suite, finalement, des ondes gravitationnelles.
Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Un domaine qui me passionne beaucoup, c'est la cosmologie. Donc, on mesure le taux d'expansion de l'univers avec les ondes gravitationnelles. Enfin, on sait qu'il y a un débat en ce moment sur ce qu'on appelle la constante de Hubble. Donc, avec les ondes gravitationnelles, on fait ça depuis 2017. Ça, c'est un domaine très intéressant. On teste les tests que fait Laura et que nous faisons, en fait, et tester de nouvelles théories de la gravitation. C'est très passionnant parce qu'il y a encore... on espère de voir des déviations avec les ondes gravitationnelles, donc des déviations de la relativité générale. On peut étudier les objets compacts, aller regarder dans des zones de l'univers où il y a cette courbure extrême de l'espace-temps, et ces signaux des ondes gravitationnelles nous donnent accès à vraiment tout un panel de champs de la physique qui sont où il y a des questions ouvertes. On espère aussi dire des choses sur la matière noire, par exemple. C'est des choses j'espère qu'on pourra faire. On pourra utiliser les ondes gravitationnelles comme un outil puissant pour tous ces domaines-là.
Merci à vous deux, Laura Bernard, Matteo Bersuglia, d'être venus nous raconter l'histoire des ondes gravitationnelles. Merci également à Loïc Dutoit pour la préparation de cette émission, à Sam Bakiast à la réalisation. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Olivier Arnay. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On se quitte en musique avec JP Manova, Longueur d'onde.
Que t'écoutes de la pop, de la soul, de la pop rock ou de la techno, de la dance soul ou bien du rap pour les pecno. Que tu carbures à la bière ou au cidre, à la save, à la weed, à la poudre, à l'acide. Si t'es soulé par le rap de teenager, fatigué d'entendre cailler des bombes de Yorkshire, des rappeurs conscients qui te font la leçon par cœur, des gangsters foireux qui s'imaginent te faire peur. Je te propose un courant alternatif pour mettre la gifle et raflant la chair à vif avec la griffe d'un niveau qui va faire la diff. Quiconque m'appelle la mif prendra le même tarif. Leur crew, leur beatmaker et leur son, je me fous de savoir ce que les autres rappeurs font. Je rebondis au jeu d'échecs et leur plombe sur toute longueur d'onde, les moves de leur pion en équilibre. équilibre sur une main là où ils sont mal assis. Entre leur mental et le mien, y'a des galaxies. Déprimé est humain, plutôt que de faire un maxi. Rapper en rond ne résout rien, qu'ils aillent voir un psy. Du haut de leur ignorance, ils trippent grave. J'en ai croisé des références des types braves. Tellement super, si t'es sûr de ce qu'ils savent. On roule près du périph' et kiffe sur les traves. Système, insista, ne te formalise pas. Je ne fais que de la distraction, sous les istras. Comprenne qui pourra et bien qu'on puisse pas aimer. Prends nos gardes pendant que je ne fais que freestyle. Yo yo, t'as compris ou pas? J'te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Yo yo, t'as compris ou pas? J'te le refais, pas la peine, t'as saisi ou pas? Vivons-nous au cœur du même monde, sommes-nous sur la même longueur d'onde? Si tu sais lire entre les lignes, je peux écrire entre. T'as l'esprit ouvert, pas besoin de signes, j'entre. Ancienne ou nouvelle école, j'ai pris le centre. Je suis de l'école qu'apprend à se remplir le ventre. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Connaîtrait tous les signes.